Chapitre 13. Après avoir été prisonnière pendant plus de 8 mois, Marichette eut des occasions de sortir coup sur coup. Deux fois, elle retourna, le dimanche, chez Madame Moreau, où elle retrouva les joies et le bonheur de la première journée. Puis, un soir, en se mettant à table, son oncle lui annonça qu'elle dînerait avec lui le samedi suivant, chez Madame Voisard. Elle resta aussi surprise qu'embarrassée. Comment voulait-il qu'elle allât dans une maison qui avait une réputation d'élégance à Saint-Maclou, avec sa robe noire qu'elle portait tous les jours depuis 8 mois ? « Pourquoi me regardes-tu ainsi ? » demanda-t-il en remarquant cet étonnement. « Étant ma cousine, tu es une demoiselle de la société et cela t'impose certaines obligations. Crois-tu que cela m'amuse d'aller dîner chez un tas de gens ?» Si cela ne l'amusait pas, au moins cela l'enorgueillissait-il. Il était en monsieur de la société, le porte-balle. On lui souriait, on lui faisait la cour, on le sollicitait. Plus d'un de ceux qu'il avait enviés dans ses années de misère se mettait maintenant à plat ventre devant son argent ou son autorité. Il était passé le temps où, parlant de lui, on disait tout simplement « Simon Belloc ». Maintenant, il était « Monsieur Belloc ». Pour son malheur, Marichette avait reçu en naissant deux qualités qui, pour une pauvre fille comme elle, étaient deux terribles défauts, la tendresse et la fierté. C'est aux heureux que la tendresse est douce, c'est avec la fortune que s'accommode la fierté. C'était justement cette fierté qui l'avait empêchée de jamais dire à son cousin un mot de sa toilette. Depuis qu'elle était à Saint-Maclou, elle n'avait eu que la robe noire commandée par Célanie et payée par son cousin Simon. Les 3 chemises qu'elle avait apportées dans son petit paquet n'étaient plus qu'une dentelle à laquelle il fallait tous les jours une reprise. Pour prolonger l'existence de ses chaussures à la mince semelle, elle avait dû se tricoter des chaussons qu'elle pouvait heureusement porter toute la semaine puisqu'elle ne sortait pas. Le chapeau qu'elle avait mis les dimanches pour aller à la messe était toujours le petit caloquet en paille qui lui avait servi pour le deuil de son père. De bas, elle n'en aurait plus eu depuis longtemps si elle ne s'en était pas tricotée aussi. Sa grande peur était le rhume, n'ayant plus de mouchoir de poche. Par bonheur, elle n'était jamais enrhumée. N'osant pas répondre et ne voulant pas parler de sa misère, elle baissa les yeux. « Te moques-tu de moi ?» demanda Belloc. « Que regardes-tu là ?»«
Rien, mon cousin. »«
Tu regardes ta robe. Est-ce pour me dire qu'elle n'est plus assez bonne pour aller chez Madame Boisard ? Pourquoi ne parles-tu pas franchement ? Crois-tu que je m'amuse à faire attention à ta toilette ? As-tu besoin d'une robe ?
Vous voyez !
On t'en fera une. As-tu besoin d'autre chose ? Tâche de le dire sans rien oublier. Comprends que tu ne dois pas me faire honte. Tu es ma cousine. Tu es ma cousine. Comme elle eût été heureuse s'il lui avait adressé ces quelques mots dans d'autres circonstances, et comme elle eût été heureuse aussi de sa générosité s'il n'avait pas dit « Tu ne dois pas me faire honte ». Pour ne pas lui faire honte, elle lui remit une liste des objets qu'elle jugeait indispensables à sa toilette et il accepta sans observation. Pendant 8 jours, ce fut une allée et venue continuelle de fournisseurs, couturières, modistes, lingères, cordonniers.
« Comme vous serez belle !» disait Paulin.
« Pourquoi le dimanche n'est-il pas la veille du samedi ?»
Sans doute c'était un soulagement pour elle que d'être affranchie de l'humiliation d'une toilette ridicule et misérable. Mais elle n'en était pas moins fort tourmentée à la pensée d'aller dîner, si belle qu'elle fût, chez cette Madame Voisard qui, à l'entrée et à la sortie de l'église, aussi bien que pendant la messe, la dévisageait toujours avec une persistance si gênante. Pourquoi la regardait-elle ainsi ? Si Marichette avait été au courant de ce qui se passait à Saint-Maclou et de ce qui s'y disait, elle aurait su que Madame Voisard, qui était la maîtresse de Belloc depuis plusieurs années, avait l'espérance d'épouser son amant quand elle serait veuve et que, par conséquent, elle était intéressée à savoir quelle était la jeune fille installée près de celui dont elle voulait faire son mari. De là cette curiosité à l'église, de là aussi cette invitation à dîner. Ce n'était point l'amour qui avait fait cette liaison, c'était simplement l'intérêt, d'un côté comme de l'autre. Pendant plusieurs années, le docteur Voisard et Belloc avaient été ennemis déclarés et si acharnés l'un contre l'autre qu'il ne se passait pas de séance du conseil municipal sans qu'il y eût entre eux une prise d'armes. Cette hostilité gênait d'autant plus Belloc que le médecin exerçait une influence considérable dans le pays, surtout sur le monde bourgeois, et que cette influence, bien souvent, annihilait celle que Belloc avait su acquérir à la longue sur les marins et les paysans. Tout ce que Belloc avait essayé pour perdre le médecin ou pour le gagner avait misérablement échoué. Au coup, aussi bien qu'aux avances amicales, Voisard répondait en plaisantant, et comme sur ce terrain il était beaucoup plus fort que son adversaire, toujours prêt à s'emporter devant la contradiction, il mettait les rieurs de son côté. Jamais les conseillers municipaux n'avaient été aussi exacts que depuis que cette guerre était déclarée. On venait à la mairie rien que pour voir les deux ennemis aux prises. Ne manquez pas la séance, il y aura une forte prise de bec entre Belloc et le docteur Voisard. Vous verrez qu'un jour ou l'autre, Belloc jettera Voisard par la fenêtre. Il faudra être là. Cependant, le spectacle attendu par plus d'un conseiller avait manqué. Un beau jour, Belloc s'était précipité sur le médecin et plusieurs conseillers se levaient précipitamment pour les séparer ou pour fermer les fenêtres quand on les avait vus se serrer les mains avec toutes les démonstrations de l'amitié la plus chaude. Ne pouvant gagner le mari franchement, Belloc avait agi sur la femme. C'était d'ailleurs chez lui une habitude prise depuis longtemps et un principe arrêté d'employer les femmes au service de ses affaires et de son ambition, trouvant cela aussi commode qu'économique. Avec les hommes, il faut toujours avoir l'argent à la main et il tenait à son argent. Auprès des femmes, il suffit d'avoir des promesses ou des belles paroles à la bouche et de cette monnaie, il était largement prodigue, avec une grande finesse, une extrême adresse, pour retarder indéfiniment l'échéance définitive. Au début, il avait été modeste dans ses entreprises, ne s'adressant qu'à de pauvres femmes ou à de pauvres filles qui pouvaient peu pour lui, mais il ne dédaignait pas les petits bénéfices et il les acceptait tous, si petits qu'ils fussent, en attendant. Le succès le poussant, il était devenu plus difficile dans ses exigences, abandonnant celles qui lui avaient rendu de petits services pour celles qui pouvaient maintenant lui en rendre de plus importants. Toutes lui étaient bonnes, aucune ne le rebutait. Ni la beauté, ni la laideur, ni l'âge ne comptaient quand son intérêt était en jeu. Beau parleur quand il le voulait, avec sa faconde du Midi originale dans un pays du Nord, entreprenant, aussi prodigue de promesses que de menaces selon les circonstances, mais avec cette nuance bien connue que l'effet d'une menace ne se faisait jamais attendre, il était arrivé à cette conviction que les femmes étaient à prendre et qu'il n'y avait qu'à les vouloir pour les avoir. Toutes pouvaient rendre des services quand on savait jouer d'elles et qu'on avait la sagesse de ne pas leur demander plus qu'elles ne pouvaient donner. À mesure que sa fortune avait monté, il avait monté, lui aussi, dans le choix de ses maîtresses. À la femme d'un brigadier de gendarmerie, dont il s'était longtemps servi pour faire dresser les contraventions à ses adversaires, avait succédé Madame de la Broquerie, la femme du juge de paix, qui, sur l'oreiller, soufflait à son mari, la veille de certains jugements, la leçon qu'elle avait reçue quelques instants auparavant. Puis, à celle-là, il avait ajouté la receveuse des postes, Mademoiselle Orlaville, une fille de 39 ans, enragée de sa virginité autant que de sa pauvreté, qui avait cédé plus encore devant les menaces que devant les promesses, et, une fois qu'elle s'était donné ce maître terrible, avait dû lui livrer les secrets de son bureau, toutes les lettres, toutes les dépêches qu'il avait intérêt à connaître, véritable esclave entre ses mains, qu'il avait cessé bien vite d'honorer de son amour, mais qu'il tenait toujours soumise et tremblante par la peur de la destitution, du déshonneur et de la misère. Qui trouverait-elle pour la défendre le jour où il la dénoncerait parce qu'elle aurait essayé de se révolter contre lui? Qui admettrait jamais tout haut que c'était pour M. Simon Belloc, maire de Saint-Maclou, conseiller d'arrondissement, un personnage, une puissance, qu'elle décachetait certaines lettres, supprimant celles-ci, retardant celles-là? Et puis comment aurait-elle le courage d'accuser ce tyran qui ne l'aimait plus mais qu'elle aimait toujours? D'ailleurs, quand elle le compromettrait, cela la sauverait-il? Pour l'accuser, ne devait-elle pas commencer par s'accuser elle-même? Il l'étonnait bien, les femmes sur lesquelles il avait mis sa lourde main. Celles qui avaient essayé de lui échapper avaient été perdues, tout le monde connaissait dans la contrée les histoires de celles qui avaient été réduites à la misère ou à l'exil, pour n'avoir pas courbé la tête quand elles devaient se soumettre, mais personne ne s'en révoltait. « C'est un rude homme que Belloc est né, disait-on. Et c'était tout. » Fallait-il plaindre celle qui, à Saint-Maclou, avait été assez bête ou assez faible pour se laisser prendre? Elle savait ce qui les attendait. Il en était d'elle comme des servantes qui entraient chez lui. N'était-il pas notoire que toute fille qui restait plus de 8 jours à son service sortait de chez lui enceinte? Ce n'était pas pour son ambition ou ses affaires qu'il les prenait, celle-là, mais simplement pour sa commodité, parce qu'en rentrant le soir, il les avait sous la main. Si elle ne voulait pas s'exposer à cette aventure, elle n'avait qu'à rester chez elle.